France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'esprit de paix suppose la connaissance entre les peuples. Comment faire naître cet esprit de paix? Comment faire surgir, croître et embellir cet esprit de paix? Par la presse, par la radio, par le cinéma et leur libre circulation? Nous étions en 1946, le 5 août 1946 précisément, sur la chaîne nationale.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Tandis que la conférence de Paris place l'Europe et le monde en face des nouvelles perspectives politiques de la paix, divers organismes poursuivent sur le plan intellectuel la grande œuvre du rapprochement des nations et des peuples.
La Tribune de Paris consacre ce soir une émission que va vous présenter Arnaud Charles Brun à l'un des plus importants de ces organismes, l'UNESCO.
Le président Léon Blum a bien voulu préfacer cette émission au cours de laquelle vous entendrez trois des délégués de la France à l'UNESCO, Ève Curie, Jean Painlevé et Vladimir Porcher. Le président Léon Blum vous parle.
UNESCO. Retenez bien ces trois syllabes à consonance exotique. UNESCO. Vous vous souvenez peut-être de les avoir entendus prononcer déjà, mais vous les entendrez prononcer souvent dans l'avenir. Qu'est-ce que l'UNESCO? Les trois syllabes exotiques sont formées, comme vous le pensez bien, par les initiales d'un titre un peu long. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et l'UNESCO est un des services, un des départements de la communauté internationale fondée en pleine guerre par les nations alliées à Dumbarton Oaks et à San Francisco. Ce qui doit nous intéresser particulièrement, nous Français, dans l'UNESCO, c'est son siège et son objet propre. Son siège. Au cours de la conférence constitutive qui s'est tenue à Londres à la fin de l'an passé, la délégation française a obtenu que ce siège fût fixé à Paris. Cette décision n'a pas fait grand tapage à l'époque, et je le regrette un peu, car elle est importante. Les représentants de plus de 40 nations, venus de tous les continents, se sont trouvés d'accord pour penser que le Paris de la Libération restait le centre naturel de la culture et de la spiritualité internationale. Les services préparatoires sont encore fixés à Londres, mais l'installation à Paris commencera dès l'automne prochain. Le siège provisoire sera l'hôtel majestique mis à la disposition de l'UNESCO par le gouvernement de la République. Son objet, la conférence de Londres l'a défini dans l'esprit le plus élevé. Les Nations Unies qui sont résolues à fonder et à organiser un monde pacifique se rendent compte que les fondements de la paix sont d'ordre psychique, sentimental, spirituel, aussi bien que d'ordre politique, économique et social. L'esprit de paix est une des conditions de la paix, un des éléments de la paix. L'esprit de paix suppose la connaissance et l'intelligence réciproque entre les peuples. Il implique la coopération et la solidarité de tous les États dans les grands domaines de l'éducation, de la connaissance scientifique, de la culture générale. Et dans ce terme très large de culture, on doit faire entrer les lettres, les arts, toutes les formes de la pensée. Il comporte enfin une action continue sur les opinions publiques et sur toutes les formes de cette opinion et sur tous les agents de cette opinion dans la vie moderne. Presse, information, radio, cinéma. Car la guerre ou la paix ne dépendent plus aujourd'hui des gouvernements, mais des peuples. Et le véritable esprit de paix doit se propager non seulement dans les élites, mais dans les masses. C'est une grande œuvre, une œuvre immense, mais nul n'est plus nécessaire et nul n'est plus noble. La constitution intérieure est le mode d'action de l'UNESCO, notre hôte de demain. Celui-ci se précise peu à peu dans les travaux de la commission provisoire de Londres. Les délégués français ont pris une part active et souvent une part décisive à ces travaux. Vous allez entendre maintenant trois d'entre eux, Madame F. Curie, Monsieur Jean Pinlevé et Monsieur Vladimir Porcher.
Ainsi que le président Léon Blum vient de vous l'annoncer, vous allez entendre maintenant trois des représentants de la France à l'UNESCO. Ève Curie, co-directeur du journal Paris Presse, déléguée française pour la presse, Jean Pinlevé, délégué pour le cinéma, et Vladimir Porcher, directeur général de la radiodiffusion française, délégué pour la radio. Tous trois vont nous entretenir de la contribution qu'ils ont apportée à l'œuvre de rapprochement que poursuit l'UNESCO. Et c'est à Vladimir Porcher que nous allons demander de commencer cet exposé des activités à Londres de la délégation française. Je vous en prie, Vladimir Porcher.
Eh bien, nous avons pensé tout d'abord qu'il serait intéressant de proposer à l'UNESCO la création d'un centre international de radio dont le programme serait le suivant. Il s'agirait tout d'abord en quelque sorte de grouper dans une même organisation internationale les éléments de production radiophonique fournis par différents pays, et ceci aussi bien s'agissant de manuscrits, de partitions, de broadcasts enregistrés, que de personnel radiophonique même, c'est-à-dire de producteurs d'émissions radiophoniques, de reporters, de journalistes, d'auteurs qui seraient appelés à fournir les éléments dont ils disposent et les œuvres dont ils sont les auteurs, lesquelles seraient ensuite traduites, réparties entre les différents pays participant à l'organisation de ce centre. Cette proposition a reçu l'agrément de la commission préparatoire de l'UNESCO et il est à espérer qu'elle pourra bientôt que l'organisme en question pourra bientôt se constituer. Il aurait évidemment pour effet d'accélérer les échanges qui se font encore, les échanges artistiques, journalistiques et autres qui se font encore de radio à radio. Et il est évident que si l'on pouvait d'ores et déjà disposer d'un organisme central, d'une sorte de cabine d'aiguillage, de centre répartiteur, on pourrait utiliser d'une façon beaucoup plus efficace et immédiate les ressources provenant des différentes radios du monde.
C'est un peu le même esprit de coopération qui nous a guidés.
C'est Ève Curie qui intervient, permettez-moi de le souligner.
Dans le domaine de la presse, pour avoir une meilleure presse, mieux informée qu'elle ne l'est maintenant, nous avons proposé la création de centres de travail destinés à la presse, de travail et de documentation, qui se trouveraient au siège de l'UNESCO et dans les différentes agences de l'UNESCO dans les différents pays. Ces centres seraient à la fois des centres de documentation et de liaison avec les pays où ils se trouvent, et les journalistes étrangers qui visitent ces pays y trouveraient une facilité plus grande de travailler, des informations exactes et ne seraient plus laissés à, presque au hasard de leurs enquêtes actuelles. Mais il y a une chose sur laquelle nous avons insisté beaucoup plus et qui, moi, me paraît très importante, c'est la différenciation dans le travail de l'UNESCO entre les pays riches et les pays pauvres, les pays dévastés, comme le nôtre, et les pays qui, au contraire, ont pu même développer leurs procédés d'information, leurs moyens d'information pendant la guerre. J'ai donc proposé une mesure d'urgence, une mesure qui ne sera pas permanente, qui est la suivante, que l'UNESCO s'informe d'une façon constante des ressources en matières premières des différents pays dans le domaine de l'information. Pour la presse, ces matières premières sont le papier, les machines et les caractères. Et si nous savons quels sont les besoins des pays, quelles sont leurs ressources, nous pourrons insister pour que la distribution de ces matières premières, c'est-à-dire de la possibilité matérielle d'informer le public, soit équitable et soit mieux répartie qu'elle ne l'est maintenant. Je passe sur beaucoup d'autres propositions que nous avons faites, ce serait trop long de les énumérer. Nous avons proposé en particulier des prix pour de très bons reportages facilitant la compréhension internationale, un prix qui aurait un grand prestige. Enfin, pour améliorer la profession de journaliste et le travail des journalistes, j'ai proposé un essai d'unification des statuts de la profession de journaliste, des cartes de correspondants étrangers valables partout dans tous les pays, et en particulier des accords sur les échanges et des accords qui mettent en cause les offices d'échange et l'échange des devises. Vous savez combien il est difficile maintenant pour un journal d'un pays à change déprécié comme le nôtre, par exemple, d'envoyer un correspondant à l'étranger et de le payer à l'étranger. On peut imaginer une solution par laquelle nous hébergerions des journalistes de journaux d'Angleterre ou d'Amérique, par exemple, en échange de quoi ils hébergeraient les nôtres. Je crois que c'est quelque chose de très important pour l'échange et pour le contact entre les journalistes du monde.
Oui, et cette préoccupation rejoint les nôtres.
Vous permettez, j'indique à nos auditeurs que c'est Vladimir Porcher qui prend la parole.
Nous désirons en effet voir les barrières des procédures douanières, monétaires et autres qui ralentissent trop souvent les mouvements de nos journalistes et reporters, faire place à un véritable système d'échange et d'intercommunication, de chasse et croisée internationale du personnel radiophonique. À cet égard, le Centre international de radiodiffusion pourra constituer une véritable plaque tournante et en même temps une bourse permettant d'élargir au maximum le champ d'études et d'action des radioreporters et des techniciens comme le domaine des échanges artistiques.
Ce centre international est-il en rapport avec la création d'un réseau international d'émetteurs que vous avez également suggéré à l'UNESCO?
Certainement, il en constitue en quelque sorte l'infrastructure. D'ailleurs, l'idée d'une station internationale ou même d'un réseau international répond au désir de rapprocher, de réunir, d'associer autant que possible les cultures et les ressources artistiques des différentes nations, tout en respectant bien entendu l'individualité de chacune de ces cultures. Cette station internationale serait en quelque sorte l'emblème vivant et expressif de la coopération artistique, technique et d'une façon générale culturelle. Elle correspond à l'objectif essentiel de l'UNESCO, c'est-à-dire au maintien de la paix par la compréhension mutuelle et la collaboration des esprits de cultures diverses. Elle présente en outre un autre avantage. Jusqu'à présent, les ondes courtes ont diffusé en différentes langues des points de vue nationaux. Or, placé sous le signe et sous l'autorité d'un conseil de gestion international, cet organisme, où petits et grands États auraient leur place, offrirait au public des garanties de neutralité que ce public n'accorde parfois qu'avec une certaine réserve aux projections vers ondes courtes. Peut-être parce que ces projections sur ondes courtes ont été trop souvent utilisées à des fins de propagande plus ou moins déclarées. Or, la meilleure propagande en matière de radio consiste, à mon avis, à en faire le moins possible. En tout cas, si l'on peut encore nommer moyen de propagande une station ou un réseau international, il s'agirait là d'une œuvre dont nul ne saurait contester l'élévation et l'utilité, puisqu'elle aurait pour but essentiel le maintien de la paix et comme moyen le rapprochement des esprits.
Vladimir Porcher vient de nous exposer ce qui a été fait ou ce qui a été proposé à l'UNESCO pour la radio. Ève Curie nous a parlé des suggestions qu'elle a apportées pour la presse. Et maintenant, nous allons nous tourner vers Jean Painlevé et lui demander ce qu'il a apporté, lui, à l'UNESCO, au point de vue de sa partie, c'est-à-dire du cinéma. Jean Painlevé.
Le gros problème débattu à l'UNESCO, qui est la branche culturelle des Nations Unies, il ne faut pas l'oublier, est la libre circulation des films culturels. Ceci part d'un bon naturel, mais il est évident que cela soulève des problèmes assez complexes. Il faut d'abord définir ce qu'est cette libre circulation. Pas de douane, pas de censure, et peut-être pas de quotas. Vous voyez les abus que cela pourrait amener dans certains cas, et nous sommes obligés tout de suite de penser à certaines restrictions de cette fameuse liberté de circulation. Et d'abord, de définir le film culturel. C'est extrêmement délicat parce que le mot culturel peut s'appliquer simplement à l'emploi que l'on fait d'un film, et non pas seulement à sa définition, par exemple, pédagogique. Nous pouvons prendre un film de haut comique et en dégager l'essence même cinématographique. Nous pouvons par conséquent considérer le film culturel suivant son emploi. Mais sans aller jusque-là, essayons déjà d'obtenir cette libre circulation pour les films sur lesquels l'ensemble des nations sera d'accord. À ce moment-là, on peut penser que sur recommandation d'un pays producteur, le pays qui importera ce film recommandé aidera ce film dans toute la mesure de ses moyens, c'est-à-dire ne lui donnera pas d'ennuis douaniers, facilitera la rapidité ferroviaire ou par avion des transports, exigera qu'il n'y ait pas de censure et d'autre part promettra en échange que ce film ne passera pas dans des circuits commerciaux, car il y a là une autre définition à trouver, c'est la définition du commercial au point de vue des circuits. Personnellement, j'ai toujours insisté sur le fait que des films dits non commerciaux ne puissent passer que dans des organismes bien définis tels que des ciné-clubs, par l'intermédiaire au besoin de cinémathèques, de fédérations d'enseignement, d'associations culturelles responsables, qui seraient certaines de pouvoir empêcher la diffusion commerciale de tels films réservés alors à un public spécialisé. Nous avons demandé aussi que les cinémathèques et les ciné-clubs soient fortement appuyés par l'UNESCO à titre de fédération. Les cinémathèques sont indispensables pour conserver les efforts et pour l'histoire du cinéma, et les ciné-clubs pour la culture cinématographique. D'autre part, les instituts scientifiques pourraient fonctionner dans différents pays avec des bases communes et notamment la communication préalable de tout projet. Les sièges des associations internationales de ces différents efforts doivent être, à mon avis, à l'UNESCO. Enfin, il faut que l'UNESCO aide, d'une manière peut-être simplement pécuniaire et en tout cas morale, le développement de l'esprit de paix par des films d'intérêt international. Une nouvelle formule de film pédagogique doit être trouvée, le film pédagogique devant alors être considéré comme l'instrument du maître pendant sa classe. Et enfin, les films pour les enfants doivent être dès maintenant soutenus par tous les efforts gouvernementaux. Ceci ne peut être qu'une simple recommandation, mais elle est certainement souhaitable. Pour terminer, je dirais que nous avons insisté sur la protection des droits d'auteur de films qui ne doivent pas, sous prétexte qu'au point de vue marchand, les droits passent de main en main, perdre le bénéfice d'une belle réalisation cinématographique qui doit être détruite pour faire place à une réalisation commerciale suivante. Au lieu d'être détruite, elle doit être remise aux cinémathèques qui pourront, le cas échéant, en faire passer des copies au cinéclub.
Vous vous êtes placé en somme, suivant du reste en cela les principes mêmes de l'UNESCO, sur le plan culturel. Eh bien, nous allons demander maintenant à Ève Curie de vouloir bien apporter une conclusion à cet échange de vues. Ève Curie.
Pour résumer, je crois que chacun de nous, dans les trois domaines, presse, radio, cinéma, vient d'exposer des propositions concrètes qui ont été faites par nous à Londres. Nous pouvons peut-être maintenant conclure en rappelant le but général de ces propositions particulières. Il est évident, c'est développer la liberté d'information et d'opinion dans le monde, et c'est d'autre part favoriser par l'information l'esprit de compréhension internationale et l'esprit de paix. En somme, l'UNESCO, par des moyens pratiques que nous venons d'exposer, devra atteindre un but intellectuel et un but moral. Il est évident que la France a un très grand rôle, un rôle très original à jouer dans ce domaine, et nous devons nous féliciter que Paris ait été choisi comme siège de cet instrument de coopération intellectuelle internationale dont nous attendons beaucoup.
Le président Léon Blum, Ève Curie, Jean Painlevé et Vladimir Porcher vous ont exposé les buts et les travaux de l'UNESCO.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Demain, à 22h30, le magazine du spectacle.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 5 août 1946.